y a un point où on n'est pas capable de le fournir et qu'il faut qu'on arrive à la réalité, on ne peut pas le faire.
C'est pas la colère, c'est plus la tristesse que je ressens. Fait que je me sens seul dans cette situation-là.
Bonne fin de journée, tout le monde. Le bal des vols retardés se poursuit dans nos aéroports aux situations extrêmes, mesures extrêmes. Le plus important transporteur aérien au pays, Air Canada, a annoncé hier soir l'annulation d'environ 15 % de ses vols pour les mois de juillet et août. On parle en fait de 154 vols quotidiens qui seront annulés au départ de Montréal et de Toronto. C'est une façon, en fait, d'enlever la pression et amener les flux de passagers à un niveau plus fiable. Ça, c'est ce que nous dit la compagnie aérienne. J'en parle avec mon collègue Louis-Philippe Bourdeau. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Michel.
Air Canada hier soir. Mais là, c'est WestJet qui emboîte le pas, qui annonce également, en fait, qu'on va revoir de façon assez importante les services offerts cet été.
Voilà. WestJet, qui est le deuxième transporteur aérien au pays, annonce une réduction de service de 25 %. Donc, 25 % moins de vols au cours de la période estivale. Même raison qu'Air Canada. On veut stabiliser le service à la clientèle, répondre aux critiques également sur les réseaux sociaux, à la situation dans les aéroports. On nous dit que c'est une décision qui a été planifiée depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Mais il faut dire que, Michel, l'entreprise ne s'en était pas vantée haut et fort avant aujourd'hui. Pour ce qui est d'Air Canada, on a un peu plus d'explications sur cette série de vols annulés. Voici la réponse que m'a fait parvenir l'entreprise un peu plus tôt aujourd'hui. On dit que ce sera principalement la fréquence des vols qui sera réduite, particulièrement des vols transfrontaliers intérieurs assurés par des appareils de plus petite taille en soirée, en fin de soirée. Des changements qui ne touchent pas les vols internationaux, ça c'est important de le préciser. Maintenant, est-ce que tout ça sera suffisant, notamment pour enlever un peu de pression sur les épaules des employés, des bagagistes, des mécaniciens? Bien, voici la réponse du syndicat.
Mais il y a un point où on n'est pas capable de fournir et puis qu'il faut qu'on arrive à la réalité, on ne peut pas le faire. Alors, c'est un mal pour un bien. Là, avec ça, on va être capable de se réajuster un peu. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de positif, mais à quel point, c'est vraiment dur à prévoir. On va commencer avec ça, puis si on a besoin de se réajuster, là, nous autres, on est toujours prêts à discuter avec l'employeur.
Et Michel, Air Canada promet des remboursements aux clients touchés par ces annulations ou encore, si c'est possible, de revoir la date du voyage.
Bon. Par ailleurs, Louis-Philippe, hier, Air Canada affichait le pire bilan mondial en termes de vols retardés.
Et ça, c'est selon un site spécialisé en la matière. 68 % des vols d'Air Canada qui ont été retardés hier, c'est le plus haut taux au pays. Comparativement à d'autres, bien, WestJet, c'était 57 %, British Airways, 54 %, Lufthansa, 44 % et 39 % pour EasyJet. Et selon le syndicat des bagagistes, bien, on dit que les employés sont épuisés, qu'on augmente au maximum le temps supplémentaire et qu'on tente de trouver de nouvelles solutions.
Nos membres, là, ils atteignent les maximums heures prévues dans la loi de travailler en temps supplémentaire. Ils sont tous là. On est épuisés, on est fatigués. On est content d'être revenus au travail. On va continuer de faire le mieux possible. S'il vous plaît, d'être patient avec nous.
Donc, Michel, le mot d'ordre, c'est présentez-vous à l'avance. On le répète jamais assez, trop souvent, 3 heures à l'avance pour être certain d'éviter le plus de péripéties possible.
Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience dans vos bagages. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Voilà.
Bye-bye.
Salut.
Il y a un endroit, une ville, en fait, où on veut absolument éviter le chaos demain, c'est à Ottawa. La capitale est prête, en fait, pour les festivités entourant la fête du Canada. Et ça commence par une importante présence policière. Tout le monde veut éviter, en fait, le grabuge et surtout les manifestations qui se transforment en blocus, comme on a vu en janvier-février. Mathieu Fleury est conseiller municipal à la ville d'Ottawa. Bonsoir, M. Fleury.
Bonsoir.
Ça fait 12 ans que vous êtes le représentant du quartier Rideau-Vanier. Dites-moi, depuis 2010, est-ce que vous avez déjà vu une fête nationale, une fête du Canada aussi surveillée que celle-ci?
Oui, en 2017, avec les célébrations du 150e, il y avait une forte présence policière. Évidemment, les raisons sont un petit peu différentes cette fois-ci. On est inquiet. On essaie de protéger la viabilité pour les résidents. On essaie aussi d'assurer l'ouverture sécuritaire des commerçants. Et puis, à travers tout ça, on veut que les gens profitent de la fête du Canada. Donc, beaucoup d'inquiétudes. Comme vous le savez, le début d'année à Ottawa a été difficile avec l'occupation.
Bon, il y a des policiers un peu partout, de tous les corps de la province, même la GRC. Qu'est-ce qui a été mis en place là, en ce moment comme mesure pour éviter du grabuge comme ce qu'on a vu cet hiver?
Une des mesures qui a eu le plus grand impact cet hiver, c'était l'utilisation des véhicules puis des camions comme armes. Donc, on a restreint l'accès à travers plusieurs rues du centre-ville, les rues Rideau, le marché Baille, et puis près des plaines Le Breton. Donc, ce que ça permet, c'est vraiment d'avoir un meilleur contrôle de ce risque. C'est sûr qu'il va y avoir des manifestants, mais on attend énormément de foule. Et puis, évidemment, la fête comme telle n'aura pas lieu, la fête et puis le concert puis les activités de la fête du Canada n'auront pas lieu sur la colline parlementaire cette année. Ils vont avoir lieu tout près du musée de la guerre qui est situé un petit peu plus à l'ouest du centre-ville d'Ottawa. Donc, ça change aussi un peu la dot. Puis, il y a des facteurs de risque qui sont un petit peu divisés, parce qu'on a peur dans le marché, on a peur sur la colline parlementaire, et puis on a peur, évidemment, où il va y avoir les concerts.
Justement, parlez-moi un peu de l'état d'âme des commerçants, parce qu'avec la fête, ça amène normalement beaucoup d'eau au moulin. Il y a pour les commerçants, là, il y a bien des gens qui vont se rendre du côté d'Ottawa. Il y a de l'inquiétude plus que de la joie?
Je dirais que généralement, c'est de la joie. Les policiers puis les équipes, les autorités de la ville ont rassuré les locaux en disant « Regardez les mesures qu'on prend. On a une forte présence policière. On a des points d'accès et tout ça. » Donc, pour les commerçants, c'est important de comprendre qu'à Ottawa, la fin de semaine de la fête du Canada, c'est une des fins de semaine les plus importantes au niveau économique, au niveau des ventes. Certaines fois, ça fait vraiment l'été pour certains commerçants. Donc, c'est pas toujours évident... évident d'avoir le risque, mais les commerçants s'attendent à un achalandage quand même accru.
Et d'ailleurs, vous
surtout
invitez...
maintenant qu'il n'y a plus les mêmes mesures.
Il reste 15 secondes. Vous invitez les gens, d'ailleurs, à participer parce qu'on se dit plus il va y avoir de familles, plus de gens, bien, ça va amener une certaine paix publique, c'est ça?
On veut que les gens qui vont manifester, les députés fédéraux qui les manifestent dans leur région, puis venez célébrer la fête du Canada à Ottawa en famille. On veut rassembler les foules, habituellement des centaines de milliers de personnes.
On espère que ça va bien se passer. Mathieu Fleury, merci beaucoup et bonne fête du Canada.
Merci, à vous aussi.
Le sommet de l'OTAN est terminé. Justin Trudeau en a profité pour annoncer l'envoi en Ukraine d'une quarantaine de véhicules blindés en renfort. Joe Biden, de son côté, a tout fait pour montrer que l'OTAN est plus unie que jamais, allant jusqu'à dire que l'organisation va défendre le moindre pouce de territoire de ses membres. La Russie, elle, parle plutôt d'une nouvelle guerre froide. Retour chez nous après le gouvernement fédéral. Bien, c'est au tour des commanditaires de Hockey Canada de retirer leur financement à l'organisation. Réaction, bien sûr, à la suite du règlement à l'amiable concernant le présumé viol collectif commis par des joueurs. On en parle avec notre collaborateur Ray Lalonde. Salut, Ray.
Salut, Michel.
Alors, on parle de Tim Hortons, la Banque Scotia, Canadian Tire, TELUS, c'est quand même des gros noms, qui se retirent. Donc, c'est assez majeur là, comme financement que Hockey Canada n'aura plus.
C'est cinq des plus gros noms qui soutiennent Hockey Canada comme partenaires principaux au niveau national ou international, Michel, depuis plusieurs années. Et c'est des centaines de milliers de dollars chacun. Donc, quand ils se désistent ou suspendent leur appui, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en Hockey Canada et surtout, Michel, qu'ils ne veulent pas être associés.
C'est surtout ça qui fait par exemple, d'un joueur, d'une équipe comme ça.
Chaque fois qu'il y a une transgression, il y a un comportement mauvais au niveau d'un athlète, d'un dirigeant, d'une équipe ou d'une organisation... Bien là, forcément, il n'y a pas personne qui va être collé à ça pour véhiculer leur marque vis-à-vis leurs clients, leurs acheteurs, leurs consommateurs potentiels. Et cette tâche-là qui existe grâce à un incident comme ça.
Parce que c'est une relation d'affaires, puis de toute façon, quand on s'associe avec...
C'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage la même vision.
On va parler de joueurs, parce que là, il y a le défenseur Victor Mété des sénateurs d'Ottawa qui, lui, est... sorti pour réitérer son innocence, disant qu'il était en vacances lors du viol présumé parce qu'il était joueur dans l'équipe à ce moment-là. Est-ce que c'est grâce aux joueurs qui vont affirmer leur innocence comme ça qu'on va finalement savoir qui était impliqué dans ce geste, vu qu'Hockey Canada refuse de dire qui sont les joueurs en question?
C'est une situation qui est très explosive à tous les niveaux parce que tu as des suspects, tu as une victime. Et pour le moment, on ne connaît pas l'identité des suspects, mais certains individus dans l'équipe qui ont gagné le championnat du monde puis qui fêtaient à cette occasion-là, bien, eux ont choisi, comme Victor Mété, la voie de rassurer les gens qu'ils n'étaient pas participants. Donc, ils ont pris l'avance suite à leur conseil de leur agent, comme quoi ils allaient affirmer qu'ils n'étaient pas présents. Donc, dans le cas de Victor Mété, qui joue dans la Ligue nationale, autrefois avec les Canadiens, maintenant avec les Sénateurs, mais lui, il voulait simplement s'assurer que son nom n'était pas entaché et associé à ce groupe-là.
Parce que c'est ça, on va enlever le doute, parce que
ben oui.
On rappelle à peu près 25 joueurs dans une équipe, il y en a 8 qui sont suspects, il y en a 17 qui sont innocents carrément, qui veulent nettoyer leur réputation.
Avant qu'on soupçonne qu'ils faisaient partie du groupe.
Qu'est-ce que ça va prendre aux commanditaires, également au gouvernement, pour recréer, et surtout à Hockey Canada, pour recréer ce lien de confiance-là qu'il y avait avant?
Ça prend des années, Michel, à bâtir une confiance avec une marque, quelle qu'elle soit. Hockey Canada a un rôle de gouvernance, c'est une fédération nationale de sport. C'est encore plus important d'être responsable, d'être imputable. Et ils n'ont pas donné confiance à leurs partenaires. Il va falloir rebâtir ça au cours de plusieurs années.
Peut-être d'autres ruptures d'affaires à suivre. Merci beaucoup, Ray. Québec, il va d'une deuxième annonce en deux jours concernant les logements abordables. Hier, il y a la ministre André Laforêt qui annonçait des partenariats et 3 000 logements. Eh bien, aujourd'hui, elle bonifie la location logement. Ça, c'est le montant qui est donné aux familles qui ont de la difficulté à payer leur loyer. On parle quand même d'une hausse là, qui peut aller jusqu'à 70 %. Le programme de supplément au loyer est également augmenté. Mais il y a des citoyens qui tombent quand même dans les cracks du système. C'est le cas d'un homme de Montréal-Nord qui se fait carrément jeter à la rue par son propriétaire. C'est littéralement ce qui va lui arriver. Pour lui, la seule option qu'il voit pour l'instant, c'est l'accueil Bonneau. Anaïs raconte son histoire.
Moi, j'aime pas de me retrouver à la rue. Vu que le mois de juillet, j'ai pas encore trouvé de logement pour le mois de juillet. Et le mois de juillet, je dois déménager et je dois aller où? Sans aucune aide nécessaire, sans personne qui peut m'héberger. Et je vais tout perdre mes affaires personnelles. Que ça me rend tellement anxieux et puis je suis incapable de dormir. Et je demande au propriétaire que la nuit, il y a beaucoup de rats, de souris, puis de coquerelles. Et le fait qu'il a annoncé ça, c'est ça qui l'a poussé à résilier mon bail encore plus. Et que parce que le building est infesté avec les rats, les souris. On a même mis, moi, j'ai même mis des pièges pour des souris, pour montrer au propriétaire exactement. Il y a des souris ici, il y a des rats, ce qu'il ne me croyait pas. Et là, pour juste augmenter le loyer, juste, ça veut dire juste pour m'expulser du loyer, finalement.
Éviction déguisée, je pense que c'est les bons mots. Des propriétaires qui vont chercher des moyens pour faire évincer leurs locataires qui ne paient pas cher de loyer. J'entends souvent ça là, dans le service aux locataires, là, quand ils nous appellent. Ça, c'est un des moyens, donc, d'accuser le locataire de ne pas avoir payé son loyer parce que le locataire, ben, il n'y a pas les preuves, il n'y a pas de reçu, par exemple.
Moi, je trouve que c'est une injustice que, juste pour question d'augmenter les loyers, qu'il y a des problèmes dans l'appartement que je demande. Parce que dans la salle de bain, ça m'a pris un an avant que le propriétaire soit ajusté l'eau parce que ça coule toutes les nuits. Parfois, ça a débordé. Pendant ces temps, je paye toujours mon propriétaire à l'argent liquide et qu'à chaque fois, le propriétaire ne me donne pas de reçu. Et finalement, cette année, il veut augmenter le prix du loyer de 200 $. Vu que le fait que je n'ai pas accepté qu'il augmente le prix du loyer, là, il m'a dit... Mais à chaque fois que moi, je lui ai payé, il ne m'a jamais donné de reçu. Fait que quand ça a été à la régie du logement, finalement, moi, je n'ai pas de reçu. Que monsieur a gagné, puis mon bail est résilié.
Par contre, jusqu'à maintenant, dans nos contacts avec l'office municipal, on n'a pas été en mesure d'obtenir de l'aide de leur part. C'est justement en lien avec le jugement non-paiement. D'ailleurs, j'ai d'autres cas là, que celui de M. Victor, puis c'est très inquiétant. Ces gens-là, ils risquent de devoir faire appel là, au service d'organismes en itinérance.
Qu'est-ce que vous faites sur Marketplace?
Puis je fais des recherches de logements, puis j'ai envoyé des messages pour les appartements.
Vous en avez envoyé combien?
J'en ai envoyé 7, puis j'ai eu 7 visites. Mais ça, à chaque fois, ça m'a coûté 50 $ pour vérification de crédit. Je me sens tellement seul puis anxieux. Et parfois, je me demande comment que ça me fait arriver à moi.
parlant un peu de COVID, on s'est habitué à l'expression « pleinement vacciné ». Eh bien, le gouvernement fédéral la laisse tomber. Les Canadiens vont devoir maintenant être à jour dans leur vaccination. Ça veut dire qu'il va falloir montrer qu'on a reçu une dose dans les 9 mois. C'est le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui l'a annoncé aujourd'hui. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'Omicron a considérablement changé la donne. Les variants se multiplient, les vaccins deviennent de moins en moins efficaces à mesure que le temps passe.
Heureusement, recevoir une dose de rappel contre la COVID-19, lorsque cela est recommandé, améliore notre protection. Nous savons maintenant qu'une vaccination à jour permet de réduire les risques de transmission, d'infection, les risques de symptômes sévères et les risques de développer la COVID longue.
Il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé dresse un portrait sombre de la pandémie. Il y a une centaine de pays en ce moment qui enregistrent une hausse des cas. On parle d'une augmentation de 18 % la semaine dernière seulement, avec plus de 4 millions de cas signalés dans le monde. Là où on peut peut-être se réjouir, c'est en ce qui concerne les décès. Ça reste quand même assez stable de ce côté-là. Chez nous comme ailleurs, ce sont les variants, entre autres BA.4 et BA.5, qui sont les plus, qui commencent à être les plus répandus. C'est ce soir que s'ouvre la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal. Il y a plus de 350 concerts d'artistes d'ici et d'ailleurs qui sont prévus jusqu'au 9 juillet. Un événement estival incontournable. J'en ai parlé un peu plus tôt avec le directeur de la programmation, Laurent Saunier. Bonsoir, M. Saunier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va bien, vous, parce que ça a été des mois, bien, j'allais dire des années d'attente, mais des mois de préparation, 350 concerts. C'est toute une programmation que vous nous préparez, là, que vous nous avez préparée.
Bien, on est très content, on est ravis parce que, comme vous venez de le dire, ça fait quand même 3 ans qu'on n'a pas fait de festival. Donc, on a un peu des fourmis dans les jambes aujourd'hui. On est un peu excités par rapport à tout ça. On sait que la météo devrait être de notre part pour le premier week-end. Donc, tout va bien. On a des beaux shows gratuits en extérieur. Comme vous l'avez dit, on a 350 shows au total, mais les 2/3 sont gratuits en extérieur. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas venir et de se passer du Festival de jazz cette année.
Est-ce que c'est un retour à la normale ou, en fait, en quoi les 2 dernières années d'attente ont changé le festival que vous nous avez préparé?
Bien, on a eu le temps de faire quelques petits changements dans le sens où on a créé des nouveaux lieux cette année. On a le Club Montréal, par exemple, cette année, qui n'existait pas avant, où à chaque soir, il y a 2 artistes de Montréal qui vont se produire sur scène. Donc, on voulait vraiment faire un focus sur les artistes montréalais. On a un nouveau pub aussi, puisque la Place Tranquille n'existait pas auparavant. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Et autre nouveauté, tous les shows qui sont au studio TD sont gratuits cette année. L'idée là-dedans, c'est surtout de dire à tout le monde, venez, ça vaut la peine. Il y a plein de belles affaires à découvrir d'abord et avant tout.
Bon, puis après le succès des Franco, j'imagine que vous n'êtes pas trop inquiet là, de la présence des gens. Les gens vont y aller, vont sortir. Hein?
Bien, quand on voit le nombre de personnes qu'il y a déjà sur le site alors qu'il est à peine 5 heures, je pense qu'on va avoir une très belle soirée. Ouais, il y a Tash Sultana qui joue sur la scène de la Place des Festivals. Donc ça, il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de monde pour ça. Bon. Puis on a plein de shows en salle aussi. Wynton Marsalis à Wilfrid Pelletier, bref.
Je vous ferai pas nommer les 350 shows, là, mais nommez-moi un événement qu'il ne faut pas manquer.
Ah, bien, il y en a plein, mais je vous dirais, gardez-vous des forces pour le week-end prochain, puisque vendredi prochain, sur la Place des Festivals, on célèbre le 25e anniversaire de la sortie du premier album de Brandvan 3000. Mm-hmm. Et le lendemain, 9 juillet, The Roots, gratuit sur la Place des Festivals. Ça va être un très, très beau party clôture.
Laurent Saunier, c'est votre dernier festival de jazz. Quel sentiment vous habite ce soir?
Ah, moi, je suis super excité. Je suis super excité parce qu'il me reste 10 super belles journées de festival à faire. Je vais en profiter largement. Et puis, de toute façon, vous savez bien, hein, vous allez me revoir pareil traîner pendant les festivals parce que une de mes activités préférées dans la vie, c'est d'aller voir des shows. Je ne vais pas me gêner, moi, non plus.
Bon, ben, ça va faire plaisir de vous reparler de spectacle montréalais. Laurent Saunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon dernier festival.
Merci à vous.
Bye-bye.
Au revoir.
Bon, c'est un grand jour également pour les amateurs de spectacle. Après 8 longues années, le Théâtre de Verdure du Parc La Fontaine va enfin reprendre du service. Et ce sont les Ballets Jazz de Montréal qui vont avoir l'honneur d'inaugurer la scène et les 1 700 places assises. Vous allez voir, c'est assez impressionnant.
Donc ce soir, c'est l'événement inaugural du Théâtre de Verdure au Parc La Fontaine. Et le Ballet Jazz Montréal, la compagnie de danse, a la chance d'en faire partie. On va présenter deux pièces qu'on a préparées tout spécialement pour Théâtre de Verdure. Il y a un énorme plaisir de faire un travail supplémentaire pour adapter justement des pièces qui ont été créées pour des théâtres plus conventionnels. Hier soir, on a fait la répétition, on a pris le temps de s'adapter. C'est aussi la beauté des choses, hein. C'est vivant. Donc même la pièce qui a été créée, elle va se modeler, elle va rentrer dans un parc, dans un théâtre qui est dans un parc. Le Théâtre de Verdure, l'architecture, hier soir, on avait un coucher du soleil, l'eau devant la scène, il y a quelque chose de vraiment magique. Je pense avec toutes ces dernières années, les difficultés qu'on a tous fait face, de se retrouver ensemble dans la nature, vraiment un peu après le coucher du soleil, de la danse, de la musique, une relation avec ces artistes gratuitement, c'est un moment de bonheur.
Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Michel.
Il y a un important incendie qui a eu lieu du côté de Longueuil qui a fait malheureusement deux morts.
Ouais, les corps qui ont été retrouvés dans les décombres un petit peu plus tôt aujourd'hui. On parle également d'une femme qui a été grièvement blessée et qui se trouve entre la vie et la mort du côté de l'hôpital. C'est un incendie qui a débuté, vous le voyez, dans cette résidence. Donc c'est une maison en rangée de la rue Cuvillier-Est vers 7h10 ce matin. On ne connaît pas encore la cause de l'incendie, mais vous voyez, ça a frappé quand même assez fort.
Maintenant, on va parler un peu d'alimentation parce qu'on va avoir droit à un nouvel étiquetage là, sur les produits trop sucrés, trop salés, trop gras au Canada.
Ça faisait quand même longtemps qu'on en parlait et là, ça a été annoncé aujourd'hui par le ministre de la Santé canadien, Jean-Yves Duclos. Alors, c'est une étiquette, un logo en fait qui sera installé sur les produits qui présentent, par exemple, trop de gras, trop de sucre ou trop de sel, mais c'est quand même pas demain la veille.
On saura tout de suite ce qu'on va consommer.
Exactement, mais c'est seulement à partir de janvier 2026. Donc, ça a été annoncé aujourd'hui, mais ça va être pour plus tard.
Bon. Et ce soir, à 22h, tu reçois?
On va parler notamment avec l'expert en aviation civile, Jean Lapointe. Il va pouvoir nous parler un peu de ce chaos du côté de l'aéroport de Montréal.
Regarde ça, à 22h. C'est toi qui es là également demain?
Demain, toute la journée.
Au fil 17h30 et 22h. On se retrouve, nous, lundi, 17h30. Bye-bye. Bonne fête du Canada.